Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Eh bien voilà, bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous.
Bienvenue donc pour cette émission mensuelle pour la dignité, où vous allez, Régis, nous donner le sommaire de cette émission.
Oui, avec plaisir. Donc, je vous parlerai d'un cas dramatique de Raif Badawi en Arabie Saoudite. On fera un petit bilan de la campagne 10 jours pour signer. On parlera de Biram Dahabé, notre Mauritanien que nous connaissons personnellement et qui vient d'être condamné à 2 ans de prison pour défendre les droits humains. Et puis, il y aura des bonnes nouvelles. On parlera un peu du groupe de Digne. Voilà. Et puis, tout cela avec un témoignage d'un enfant qui écrit à son père en prison. Son père qui est en prison. Et puis, de la musique. Avec Souchon Voulzy. Et puis traîner à la fin pour terminer, puisque Cabu était un admirateur de traîner. Donc c'était un peu pour lui rendre hommage, pour rendre hommage à ce dessinateur qui a accompagné notre jeunesse et jusqu'à maintenant. Voilà le programme.
Donc oui, tu vas nous parler des attentats de Paris et la réaction d'Amnesty International, bien sûr, puisque c'est un attentat contre la liberté d'expression, entre autres.
Oui, alors face à ces attentats, bien sûr, Amnesty International a demandé à tous ces militants, à tous ces groupes de participer avec l'ensemble de la population à cet élan qui a été formidable. Hein. Autant le crime a été horrible et l'élan a été généreux, spontané, de personnes qui, tout en n'étant pas toujours d'accord sur les dessins, a bien senti que c'était la liberté d'expression qui était en jeu. Et souvent, ben, ça commence comme ça, on limite la liberté d'expression et puis on en arrive à un état dictatorial. Donc on a tous senti ce danger et ce désir et cette nécessité de témoigner, de dire qu'on ne tue pas pour des dessins. Voilà. Donc on a appelé à participer avec l'ensemble des gens à tous ces rassemblements. Et puis maintenant, on a fait une lettre qui est sur le site d'Amnesty, lettre au président, hein, pour dire que la réaction maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a comparé un peu ce qui s'est passé au 11 septembre des Américains. Et Amnesty, on pense qu'il ne faut absolument pas avoir la même réaction par rapport à ce qu'on a vécu en France. Parce qu'on a vu par expérience que la réaction américaine, le Patriot Act notamment, n'a pas résolu les problèmes, au contraire. Et il ne faut pas surtout faire un camp des bons, un camp des méchants, parce que le monde, c'est pas comme ça. Et puis, les démocraties doivent respecter les droits humains. On pense que les droits humains ne sont pas un frein à la sécurité, mais au contraire, contribuent à la solution. Si un État démocratique se conduit comme des terroristes, en torturant, on a vu, hein, dans le rapport du Sénat américain, des années après le 11 septembre, que les États-Unis ont utilisé la torture, les prisons secrètes, avec la complicité de pays européens, pour ne pas torturer sur leur sol. Guantanamo, dont nous demandons la fermeture depuis depuis que Guantanamo existe, quoi. Ou des, il y avait peut-être des coupables, bien sûr, mais il y avait aussi des innocents, hein, des personnes qui avaient eu le tort de se trouver à un endroit, au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui en fait n'étaient pour rien, mais qui ont subi aussi la torture. Hein. Je vois dans l'éditorial de notre présidente, Geneviève Garrigós, qui parle justement de la torture Made in USA, simulacre de noyade et d'exécution, menaces sexuelles, isolement sensoriel, privation de sommeil prolongé, maintien dans des positions douloureuses, tabassage. Tout ça se trouve dans le rapport de synthèse de la commission sénatoriale sur le renseignement, sur les méthodes utilisées par la CIA dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Tout cela est accablant. Depuis 2004 et surtout 2005, après la diffusion des photos prises dans la prison d'Abu Ghraib, nous ne pouvions pas ignorer ces pratiques. Elles sont complètement contraires aux droits humains, à toutes les chartes, toutes les conventions que les États-Unis ont signées. Et ce n'est pas ainsi qu'on combat le terrorisme en utilisant les mêmes méthodes. Et d'ailleurs, la présidente démocrate de la commission, Diane Feinstein, a contesté l'efficacité de la torture en recueillir des renseignements relatifs à des menaces imminentes, telles que des informations concernant d'hypothétiques bombes à retardement. C'est tout à fait illusoire. Donc en plus, non seulement c'est une atteinte à la dignité humaine, mais en plus ça ne sert à rien, quoi. Voilà, donc Amnesty demande dans une lettre, que vous pouvez d'ailleurs signer sur le site d'Amnesty France si vous êtes d'accord, demande au président de mettre la promotion et le respect des libertés au cœur des décisions et des politiques du gouvernement, de veiller à ce que toutes les mesures qui pourraient être prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme se fassent dans le respect des droits fondamentaux et des conventions internationales auxquelles la France est liée, de combattre toutes les formes de discrimination sur la base de l'appartenance religieuse, réelle ou supposée. Donc voilà, on continue notre combat pour les droits humains et on dénoncera toutes les atteintes aux violations de ces droits, de quel bord que ces atteintes viennent. Voilà. Sans l'aide européenne, les États-Unis n'auraient pas été en mesure de détenir en secret et de torturer des gens pendant tant d'années. C'est ce que montre aussi le rapport du Sénat. Donc les pays européens ont aussi à se remettre en cause. Il faudra aussi faire un petit peu le bilan des gens qui ont, pas des gens, mais des autorités qui ont manifesté pour la liberté d'expression avec le président de la République à Paris. Un jour on le fera, on a un peu commencé. Il y avait dans ces personnalités le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, pour la liberté d'expression, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Et bien que une autorité française ait dit que le roi avait été un grand défenseur des droits des femmes, ça a fait rire beaucoup de personnes. Voilà. Et
alors, comment on explique qu'ils aient été présents tout...
Ah ben parce que l'Arabie Saoudite, c'est un soutien à la lutte contre le terrorisme. Mais c'est un soutien qui utilise chez lui des méthodes de terrorisme. Et où la liberté d'expression n'est pas absolument pas garantie. Et où les droits des femmes sont bafoués, puisque c'est l'un des... Les femmes n'ont même pas le droit de conduire dans ce pays, c'est vous dire l'état de l'égalité homme-femme. Voilà, mais il y avait le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite qui était dans les personnalités qui défilaient pour la défense de la liberté d'expression. Voilà, alors on va en parler tout à l'heure après le CD, la chanson « L'oiseau malin » du dernier disque de Souchon Voulzy. Et c'est une chanson qui va bien sur qui parle un peu de l'injustice et de se méfier des gens qui n'ont rien, parce que de rien avoir, c'est une atteinte à la dignité humaine, alors qu'il y a des gens qui ont énormément, comme certains rois dont on a parlé. Voilà, et ça ne peut pas durer éternellement. Donc c'est une chanson qui fait réfléchir.
On l'écoute.
Malin qui monte au ciel, qui plane et qui pique au-dessus des royaumes et des républiques. L'oiseau malin regarde et voit les monarques et leurs secrets, qui lancent dans les palais d'État les ordonnances et les décrets. Master and servant de leur salon protégé, n'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter, pressentant comme un danger. Or prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissé au bord du chemin, rêveurs. Masters and servants de leur bureau protégé, n'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter, pressentant comme un danger. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissé au bord du chemin, rêveurs.
Voilà, alors je vous disais que Le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite a défilé pour la liberté d'expression le dimanche à Paris, lors de cette grande manifestation. Et en même temps, dans son pays, la liberté d'expression n'existe pas. Pour preuve, le cas emblématique de Raif Badawi, qui est en prison depuis 2 ans déjà, et qui vient d'être reconnu coupable d'avoir insulté l'islam dans ses écrits et sur son site internet. Alors qu'il a créé ce site pour encourager le débat public. Voilà, il a été condamné à 10 ans de prison, une amende financière et 1000 coups de fouet. 1000 coups de fouet. Il vient d'en recevoir il y a 15 jours 50. Il est prévu de lui donner 20 séquences tous les vendredis de 50 coups de fouet. Mais c'est des coups de fouet, c'est pas des petits coups de fouet. Les 50 premiers coups de fouet l'ont blessé au sang, à tel point que le vendredi suivant, les médecins ont jugé son état incompatible pour recevoir à nouveau 50 coups de fouet. Donc la sentence a été reportée au vendredi d'après. Vendredi dernier, les plaies n'avaient toujours pas cicatrisé. Voilà, voilà ce que fait l'Arabie Saoudite aux gens qui font des blogs et qui veulent exprimer leur opinion. Voilà, alors est-ce que c'était la place du ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite dans le mouvement? C'est à voir. Mmh. Si ça le fait réfléchir sur la situation de son pays, peut-être. Sinon, voilà, il y aura un bilan à tirer des personnes qui étaient présentes, des personnalités qui étaient présentes.
Alors, est-ce qu'il y a moyen pour Amnesty d'agir de façon urgente encore, puisque ce n'était pas un cas qui était prévu dans les 12 cas?
Alors, ce cas, en fait, était dans les 12 cas, mais n'avait pas été choisi par la France, parce qu'il y a un certain nombre de cas qui ont été pris par d'autres pays. Ce que nous, par rapport à l'atrocité de cette sentence de coup de fouet, qui est de la torture ignoble, quoi, hein, qui, ça ne doit plus exister de nos jours, nous manifestons tous les vendredis, c'est-à-dire le jour où ça doit s'appliquer, nous manifestons tous les vendredis devant l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris. Il y a des militants d'Amnesty qui viennent avec des banderoles et qui disent ben, « nous sommes Raif », c'est-à-dire voilà, le soutien à Raif Badawi. Sa femme et ses 3 enfants ont fui l'Arabie Saoudite et sont réfugiés au Canada. Et voilà, donc on va écouter maintenant la lettre de son fils Dedi, la lettre que le fils de Raif Badawi a écrit à son père, qui se trouve sur le site d'amnesty.fr. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et les paroles de l'enfant vont préciser cela.
On l'écoute tout de suite.
Papa, crois-moi, je n'ai jamais cru que je vivrais sans toi. Je n'ai jamais cru que tu ne me réveillerais pas chaque matin pour aller à l'école, comme d'habitude. Je n'avais jamais imaginé ça. Tu es en prison loin de moi parce que tu t'es battu pour tes idées. Tu es une personne pacifique qui aime les gens et leur souhaite de bonnes choses. Pourquoi es-tu en prison, papa? C'est la question que je me pose chaque jour. Est-ce que c'est vrai que c'était parce que tu as créé un site web qui encourageait le débat politique et social? Quand ma maman m'a dit que tu étais en prison à cause de tes idées, j'ai cherché ton nom sur Google. J'étais surpris de voir tout le soutien que tu recevais de tout le monde. Si ce n'était pas de maman, nous aurions plus souffert de ton absence. Oui, maman est forte, alors ne t'inquiète pas, ça fait 2 ans et demi qu'elle a fait tout ce qu'il peut pour compenser ton absence, mais rien ne peut te remplacer. Mes sœurs et moi, on se demandait en secret comment on pourrait te faire sortir de prison. Myriam a dit qu'il irait en Arabie Saoudite, qu'elle briserait la prison et frapperait les gardiens pour que papa sorte de là. Il faut que papa revienne à la maison. Nous attendons le jour où ton avion arrivera à l'aéroport de Montréal. Tu me verras qui t'attend et qui pleure et je n'arrêterai pas avant que tu viennes. Tu me prennes dans tes bras et que tu sèches mes larmes. Doudi, ton petit trésor.
Voilà le témoignage de cet enfant hein, qui ne peut plus voir son père, flagellé en Arabie Saoudite pour s'être exprimé. Donc on demande à stopper immédiatement ce châtiment et à libérer cette personne qui n'a fait que utiliser son droit à la liberté d'expression, droit qui doit être reconnu dans tous les pays quels qu'ils soient et également en Arabie Saoudite. Voilà.
Donc on peut encore signer la pétition.
Voilà, alors bien sûr, on a eu, vous savez, la campagne 10 jours pour signer, mm-hmm. où on a récolté 2 400 000 actions recensées. Et on continue bien sûr tout au long de l'année à suivre ces personnes. Et tout un chacun peut aller sur le site amnesty.fr pour signer ces pétitions en ligne. Donc il y a bien sûr la pétition pour demander la fin de ce châtiment cruel appliqué à Raif Badawi. Mais vous trouverez aussi une pétition afin que l'Europe ne laisse plus mourir les migrants à ses frontières. Une autre sur Shaker Amor qui est détenu pour rien à Guantanamo et qui devrait être libéré de suite. Une autre pétition pour demander la libération de Mohamed Al-Rokhen aux Émirats Arabes Unis, qui a été condamné à 10 ans pour son engagement pour les droits humains. En Chine, une autre pétition pour demander la libération de Liu Qingping, qui a été arrêté après une manifestation contre la corruption. Membre d'une association qui s'appelle Mouvement de Nouveaux Citoyens, elle a été condamnée à 6 ans et demi. Et torturé également. Une pétition en Inde pour demander justice pour le survivant de la catastrophe de Bhopal qui a eu lieu en 1984. Vous vous souvenez, cette usine de produits chimiques hein, ça continue à tuer là-bas, dans cette région de Bhopal. Une autre pétition pour libérer Ahmed Maher, Mohamed Adel et Ahmed Douma, condamné à 3 ans pour avoir manifesté en Égypte. Au Vietnam, une pétition pour libérer Thach Phong Thanh, blogueuse condamnée à 10 ans de prison pour avoir milité pour la liberté d'expression et la transparence. Et en Syrie, une pétition pour libérer Juan Khaled, militant des droits des Kurdes, détenu au secret depuis le 3 septembre 2012 et dont on est sans nouvelles. Et puis encore d'autres pétitions. Et vous voyez que dans toutes ces pétitions, il y en a énormément qui concernent des personnes arrêtées, torturées, détenues pour avoir exprimé leur opinion sur des blogs ou dans la rue en manifestant. Donc la liberté d'expression est menacée partout. Et il ne suffit pas de défiler, il faut aussi agir et demander des comptes aux États qui ne respectent pas cette liberté d'expression. Et j'en viens donc à notre ami Biram Dahabé, qui est un musulman de Mauritanie, défenseur des droits humains, qui prône justement un islam tolérant, lumineux, ouvert à toutes les religions, qui accepte toutes les personnes qui ont des religions différentes ou qui n'ont pas de religion. Hein. Et bien, cette personne, militant des droits humains, qui a fini second aux élections présidentielles de Mauritanie, qui est détenteur du prix Frontline Defenders, c'est-à-dire le prix le plus célèbre au niveau des défenseurs des droits humains, qui a reçu en 2013 le prix de droits de l'homme de l'ONU. Voilà, et bien cette personne est arrêtée, est en prison depuis 2 mois et demi maintenant. Elle a été arrêtée alors qu'elle rejoignait une caravane qui protestait contre l'esclavage foncier en Mauritanie. Protestation tout à fait pacifique, hein, de manière non violente. Il faut savoir qu'en Mauritanie, les descendants d'esclaves qui travaillent sur des terres sans aucun droit sont contraints de donner une partie de leur récolte à leur maître traditionnel. Ça rappelle un peu ce qu'on vivait à l'époque féodale. Hein. Voilà, alors pour avoir soutenu ces personnes, il a été arrêté. Et il vient d'être condamné à 2 ans de prison. Mmh. Voilà, par les autorités, par la justice mauritanienne, mais on pense que tout était déjà écrit par le président Aziz, hein, qui n'a pas supporté une opposition à son pouvoir. Alors, ce président de Mauritanie s'affiche comme un rempart contre le terrorisme à l'extérieur, mais dans son pays, il fait le jeu des extrémistes, hein. Et il vient de condamner un jeune qui s'était exprimé sur un blog. Ils viennent de le condamner à mort. Et là, il a condamné donc Biram, le président de l'association Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, qui est un mouvement donc anti-esclavagiste. Il a condamné à 2 ans aussi le président adjoint, ainsi qu'un président d'une autre association. Alors Amnesty International a envoyé un chercheur et a sorti un communiqué pour demander la libération de l'ancien candidat présidentiel et des militants anti-esclavagistes. Voilà, c'est le communiqué de presse est sorti le 15 janvier 2015. Et il dit que les autorités mauritaniennes doivent libérer ces 3 militants, dont un opposant bien connu, celui dont je vous ai parlé, incarcéré pour avoir organisé des réunions contre l'esclavage. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les manifestants qui protestaient devant le tribunal contre le jugement. La condamnation de ces militants qui ont participé à des manifestations pacifiques sur la base de charges vagues et ouvertes aux abus bafoue leur droit à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique, a déclaré Gaëtan Moto, qui est notre chercheur à Amnesty International sur l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et donc, après cette déclaration, Amnesty va lancer des actions pour la libération de ces personnes qui n'ont rien à faire en prison, au contraire. Je pense que nos démocraties devraient soutenir des gens comme Biram, parce que c'est eux qui portent l'espoir de voir l'islam compatible avec les valeurs universelles qui sont représentées notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et plus que jamais, à Amnesty, nous pensons que c'est ce qui doit réunir les gens hein, autour du droit à la liberté d'expression, de l'égalité homme-femme, de l'égalité de tous les êtres humains, hein, de la lutte contre la barbarie. Et j'ai trouvé sur Internet un article de Abdennour Bidar, qui est un philosophe de culture musulmane. C'est un philosophe qui prône un islam humaniste, respectueux des droits de l'homme. Et il dit que c'est possible de créer un islam respectueux des droits humains. Mais il faut se battre pour cela contre la barbarie et inventer une nouvelle spiritualité. Hein. Voilà, alors, si vous voulez, je peux vous lire un petit peu ce qu'il dit. Dans la revue Esprit, il avait publié « Lettres d'un musulman européen » qui est ensuite devenu un livre qui s'appelle « Un islam pour notre temps » dans lequel il interroge ce postulat selon lequel l'islam est compatible avec la modernité. Et il dit « Chiche, ne proclamons pas comme si c'était acquis. Passons le Coran et les matériaux dogmatiques de l'islam au crible des droits de l'homme qui ont fait la preuve de leur universalité. Une fois soustrait ce qui est incompatible avec les droits de l'homme, qu'est-ce qui reste? L'islam est-il menacé dans sa sacralité, dans sa dignité spirituelle? Il montre que non. La capacité de l'islam à spiritualiser l'existence est suffisamment forte pour qu'il n'ait pas peur de la liberté de conscience, de l'égalité des sexes, du droit à la critique, du droit de chacun à changer de religion. La tradition lui impose de faire 5 prières par jour, de jeûner le mois de Ramadan, de se respecter ce qui est halal, c'est-à-dire permis, et haram, c'est-à-dire défendu. Et lui, il dit qu'il veut pouvoir juger à chaque instant, décider en son âme et conscience, ce qui semble bon spirituellement. En même temps, sa critique ne met pas l'islam en position d'infériorité face à la modernité occidentale, parce que sa critique est mutuelle. L'islam n'a pas seulement à se mettre en position d'être jugé, il faut qu'il juge aussi, parce que l'Occident connaît ses impasses, le vide de sens, l'individualisme, le matérialisme, tout ce qu'on déplore depuis des années. Il interroge aussi les théories occidentales de la sortie de la religion, ébranlées par le retour du religieux. La culture musulmane doit entrer dans ce débat. Voilà, et il pense que la culture musulmane n'est pas incompatible avec les droits humains. Et en même temps, une critique aussi de l'Occident, hein, de cet individualisme, des gens qui sont des riches qui sont de plus en plus riches, des pauvres qui sont de plus en plus pauvres. Donc voilà, remettons les droits humains au cœur de toutes les négociations et le monde pourra être débarrassé de la famine, de la peur. Voilà, c'est ce que il cite aussi Pierre Rabhi, hein, qui demande une insurrection des consciences. Il faut intensifier le combat contre tous les défaitismes, le renoncement à nos valeurs de la République, de l'humanisme, des droits de l'homme, contre l'idée aussi que derrière chaque musulman, il y aurait un terroriste en puissance, que par essence, l'islam serait une religion violente, contre enfin, dans le monde musulman, la sous-culture de l'islam, qui donne le bâton pour se faire battre et alimente le type de préjugés. Et c'est vrai que quand on regarde les pays musulmans, on a de quoi être inquiet face justement aux décapitations, aux condamnations à la flagellation, au non-respect du droit des femmes. Voilà, tout ça doit être remis en question et en même temps, on doit aussi remettre en question nos sociétés où les injustices sont de plus en plus criante. Voilà. On a parlé de toutes ces horreurs qui arrivent en Syrie. Là, on a Amnesty à parler, vous verrez sur le site, des attaques récentes de Boko Haram sur des villages. Hein. On a eu énormément d'informations comme quoi ça avait été absolument dramatique. Énormément de maisons ont été détruites. et de personnes ont été tuées. Et le gouvernement a essayé de minimiser ces attaques de Boko Haram. Mais les photos satellites que nous utilisons ont montré de façon évidente l'ampleur de ces attaques. Voilà, donc tout ça est lié, et le grand sursaut qu'il y a eu suite aux attentats doit nous faire tous réfléchir à quel monde dans quel monde nous voulons vivre. Voilà. Et tous ensemble, on a vu qu'on peut faire de belles choses, mais voilà, il faut la justice, la fraternité, l'égalité et la liberté pour tous, quelles que soient les religions, ou même sans religion. Alors on va maintenant écouter Souchon et Voulzy dans leur chanson qui s'appelle « Oui, mais ».
La terre, tant de visages, dans les villes, dans les villages, mais qui parmi ces fourmis a mis peut-être un ami. Oh, eh, oh, oh, eh, oh, si on se
voici maintenant un petit peu des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup de mauvaises hein, dans toutes ces violences du monde. Donc les bonnes nouvelles, c'est ce que nous arrivons à obtenir grâce à toutes nos signatures, vos signatures, et toutes les pressions que nous pouvons faire auprès des autorités, des ambassades, tout au long de l'année. Alors au Nianmen, le docteur Tung Aung a été libéré de prison le 19 janvier 2015. Donc vous voyez, c'est très récent. Après 2 ans et demi d'emprisonnement inique, initialement condamné à 17 ans de prison, sa peine a été largement baissée suite à la mobilisation internationale en décembre 2013, parce qu'il faisait partie des 12 cas de notre campagne 10 jours pour signer de décembre 2013, il y a un an donc. Voilà, et vous voyez qu'on a obtenu gain de cause grâce à ces milliers de signatures que nous avons pu avoir. Comme quoi, Amnesty, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche quand même souvent. la pollution du Nigeria. Shell accepte d'indemniser les populations. 6 ans après que 2 fuites de pétrole dans le delta du Niger aient détruit les moyens de subsistance de dizaines de milliers de personnes de la zone de Bodo, Shell, poursuivi en justice au Royaume-Uni depuis, a accepté de verser une indemnisation de 70 millions d'euros aux personnes affectées. Si cela représente un pas en avant, il reste encore aux géants pétroliers à dépolluer la zone et à rendre ces oléoducs plus sûrs. Voilà, là aussi, c'était une grande campagne que nous avions menée contre les entreprises pétrolières, et notamment Shell, afin qu'ils aident cette population de Bodo, hein, qui était un village essentiellement de pêcheurs, donc qui vivait grâce aux produits de la mer et enfin du fleuve, pardon. Et la pollution était telle que les poissons mouraient et que les personnes n'avaient plus de ressources. Donc on demandait une indemnisation, mais il faut encore continuer la pression parce qu'il faut aussi qu'ils dépolluent la zone et afin de rendre au fleuve, assainir le fleuve et puis rendre les oléoducs plus sûrs. Voilà. En Russie, Artyom Saviolov, qui est un des prisonniers de Bolotnaya, est enfin libre. Le 31 décembre 2014, Saviolov a été libéré de la colonie pénitentiaire de la région de Ryazan, près de Moscou. Il faisait partie des manifestants pacifiques de Bolotnaya, injustement emprisonné depuis juin 2012. Voilà, encore une liberté d'expression atteinte, et on a obtenu enfin sa libération grâce aux pressions de tous. En France, le tribunal d'Evry repousse l'expulsion des familles roms de Ris-Orangis. Menacées d'expulsion, les 30 familles roms installées sur le terrain de la rue Fromont à Ris-Orangis peuvent enfin reprendre leur souffle. Devant l'absence d'urgence à démanteler le campement et face aux nombreux justificatifs de travail et de scolarité produits par les familles, le juge du tribunal de grande instance d'Evry a décidé d'octroyer aux occupants un délai de maintien dans les lieux jusqu'au 30 juin 2015, ce qui va permettre aux enfants de finir leur scolarité. Voilà. Et puis Amnesty International, on est contre toutes les expulsions sans qu'il y ait de solution de réinstallation. Voilà. Et puis il faut voir aussi ce que ça produit chez ces enfants qui vivent déjà dans des conditions extrêmement précaires et difficiles, de devoir être éloignés de leur école. Voilà, donc on obtient des choses. Hein. Contre la peine de mort, il y a de plus en plus d'États qui sont contre la peine de mort. 114 sur les 193 États membres de l'ONU ont voté en faveur d'une résolution prônant un moratoire sur la peine de mort. Aux États-Unis, la condamnation d'Albert Woodfox une nouvelle fois a été annulée. Le 20 novembre 2014 marque peut-être enfin un tournant historique pour Woodfox, enfermé à l'isolement depuis 42 ans aux États-Unis. À l'unanimité, 3 juges d'une cour d'appel fédérale ont annulé sa condamnation, mettant en avant la discrimination raciale dans la sélection du jury. Albert Woodfox pourrait être prochainement libéré, à condition que l'État de Louisiane cesse enfin un acharnement judiciaire de plusieurs décennies. Bonne nouvelle encore, la France qui signe le 3e protocole de la Convention des droits de l'enfant. Le 20 novembre dernier, date du 25e anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la France a enfin signé le 3e protocole facultatif à cette convention. Et en Tunisie, on a remis une pétition contre les violences sexuelles. Le 18 novembre, nous avons remis aux autorités tunisiennes une pétition signée par 198 128 membres et militants pour demander que les femmes et les jeunes filles ayant subi des violences sexuelles soient protégées. Cet événement a eu lieu alors qu'une loi sur la violence contre les femmes est en cours d'élaboration et doit être présentée aux autorités et aux membres de la société civile dans les semaines à venir. Voilà, donc on a aussi des bonnes nouvelles dans ce monde difficile. Voilà, et puis on va terminer sur une information du groupe Dinois. Donc, demain, mardi, le groupe d'Inois d'Amnesty International se retrouve, se réunit dans une des salles de l'association à côté de l'atrium, dans le bâtiment de la mairie de Digne-les-Bains. Voilà, donc si vous voulez vous renseigner davantage sur notre mouvement et sur les actions du groupe d'Inois, ben, venez à 18h nous rejoindre. C'est avec plaisir que nous vous informerons de nos actions et de l'action d'Amnesty International de par le monde en général. Voilà, on va finir cette émission en rendant donc un hommage à Cabu qui était une personne très sympathique, très gentille, d'après tous les témoignages. Hein, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un peu marqué notre jeunesse et jusqu'à maintenant. Il aimait beaucoup traîner et donc on va écouter une chanson de traîner, Le Jardin Extraordinaire, en espérant que le monde un jour soit extraordinaire.
Merci et à bientôt Régis, merci pour cette émission une fois par mois. On écoute Charles Trenet pour l'hommage à Cabu. Merci et à bientôt.
Merci, au revoir à tous.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère comme clients. Ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond d'heures autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal qui donnait des primes vertes. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette nous dit quelle distinction. Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les gens dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi, la douceur d'une couchette secrète qu'elle fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Et bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.